Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
Thank you. pièce tirée du plus récent opus de la chanteuse Charlotte Gainsbourg de son album Rest. C'était la pièce Deadly Valentine, Charlotte Gainsbourg, qui sera en spectacle ce soir au MTELUS Métropolis de Montréal.
Et elle y était hier, puisque Sylvain Cormier en parle dans Le Devoir d'aujourd'hui. Alain Brunet aussi fait une critique du spectacle. La critique de Sylvain Cormier intitulée « Charlotte Gainsbourg, la chanteuse invisible ». Motif électro, pulsion sourde, le ton est donné. De grands carrés aux contours lumineux nous cachent Charlotte Gainsbourg. La musique enterre l'évanescente voix de Charlotte Gainsbourg. Ne pas savoir, pour avoir lu le texte dans le livret, que « Lying to you » s'adresse au défunt papa Serge Gainsbourg, en mots plutôt douloureux, on se demanderait ce qu'il y a dans ses phonèmes. Pas un traître mot n'est compréhensible. Pas moyen de lire sur ses lèvres non plus. Elles sont où, ses lèvres? Elle est où, Charlotte Gainsbourg, dans ce spectacle de Charlotte Gainsbourg? Tout au long de la deuxième chanson, « Ring a ring, oh roses », la partie de cache-cache continue. Invisible Charlotte ou presque. Éclairage par l'arrière pendant l'auto-flagellante I'm a lie, pour être certain que la vedette de la soirée ne soit perceptible qu'en ombre chinoise. Chante-t-elle en français ou en anglais? Les deux, d'après le livret de Rest, l'album dont ce spectacle est très majoritairement issu. Je ne le saurais pas autrement. Ah tiens, voici une chanson de notre album, l'excellent IRM, on reconnaît Heaven Can Wait. On peut même chanter la mélodie qui fait un peu Bananarama dans le genre. Il manque les deux autres filles, la chorégraphie, les couleurs. Sinon, c'est pareil. Songbird in a Cage suit avantageusement. C'est la chanson que Paul McCartney a écrite pour Charlotte pour le dernier album et le constat est patent. Il y a vraiment une mélodie, des variations. La chanteuse demeure en retrait, mais la musique tient debout, pour ainsi dire, sans elle. Arrivé à Sylvia Says, le jet d'un projecteur de poursuite l'éclaire momentanément. Des effets stroboscopiques la soustraient vite au regard, comme si l'on voulait nous punir de l'avoir entreaperçue. On est aveuglé jusqu'à imprimer du blanc sur les rétines. Un peu comme chez l'ophtalmologiste durant un test. Fait-elle exprès? Mais oui, Charlotte Gainsbourg est timide et c'est chronique, on savait ça. Mais au point de ne pas exister dans son propre spectacle, la caméra d'un bon réalisateur peut se servir de ses yeux baissés pour qu'on voit à l'intérieur d'elle, mais ici, au MTELUS, mardi soir. Par moments, ça pourrait être un enregistrement, tant les mouvements des musiciens de Charlotte nous sont interdits. Ça se danse, au moins, ses rythmes à la Donna Summer, époque I Feel Love, et le public se trémousse au parterre. Que faire d'autre? Pendant la première partie, pour deux chansons, Charlotte Cardin est venue rejoindre le joli mais fade Alyosha. Difficile d'oublier cette voix forte, cette autre Charlotte qui remplissait l'espace tout naturellement. La fille de Serge et Jane, elle, s'ingénie à disparaître, corps et voix. Sommes-nous venus voir un show de rayons en folie entrecroisés frénétiquement? Pas moi. Je suis venue à la rencontre d'une chanteuse et ses chansons, certes dansantes, mais néanmoins sombres dans le propos. Ses chansons de l'album Rest, dont elle a signé les textes, gestes significatifs. Il faut attendre Kate. La chanson qui parle de Kate Berry, sa demi-sœur véritablement disparue, elle, pour que Charlotte, debout dans l'un des carrés, soit présente à elle-même et à nos yeux. C'est un moment magnifique. On aurait voulu tout le spectacle ainsi, en contact avec l'artiste. Laquelle retourne dans l'ombre pour Charlotte Forever, chanson de son tout premier album paru en 1986, écrit et réalisé par le fameux Paternel. On mesure... Le motif répété inlassablement fait son effet plus qu'efficace. C'est encore plus flagrant, au rappel, quand elle ose l'inénarrable « Lemon Incest ». Ça cartonne. On en oublie la Charlotte de chair et d'os, décidément incapable d'être à l'avant-plan, sauf pour dire merci à la fin et déclarer que le spectacle est dédié à Kate. Il est beau son sourire quand elle salue. Je suppose qu'une telle proposition est à prendre ou à laisser. Faut croire que j'ai besoin de voir une chanteuse chanter. Faut croire que j'ai encore en tête les performances épatantes, enjouées, inclusives des Clara Luciani et Juliette Armanet aux récentes Franco. Je les revois quand je ferme les yeux. Charlotte Gainsbourg, c'est quand j'ouvre les yeux que je ne la vois pas. Perdue de vue, Charlotte never ever. Dommage. Vous me direz si elle se montre mercredi au MTELUS.
Thank you.
Appropriation culturelle, des manifestants dénoncent le spectacle slave. C'est dans la presse, dans Le Devoir, on en parle un peu partout. Véronique Lauzon, dans la presse, près d'une centaine de manifestants ont hué les spectateurs qui entraient au Théâtre du Nouveau Monde. Hier soir, lors de la première représentation du spectacle slave, mise en scène par Robert Lepage et mettant en vedette Betty Bonifaci. On pouvait entendre parmi les slogans répétés par les manifestants « Shame on you »,« Cancel the show » et « Bye bye Betty ». Pendant 2 heures avant le début de la représentation d'hier, près d'une centaine de personnes se sont rassemblées devant le TNM en marge de la première représentation de Slave, une odyssée théâtrale à travers les chants d'esclaves, présentée dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. Le spectacle signé par Robert Lepage met en scène la chanteuse Betty Bonifaci et 6 choristes. Sur le site Internet du TNM, on peut lire que Slave est une odyssée théâtrale à travers les chants traditionnels afro-américains, des chants de coton aux chantiers de chemin de fer, des chants d'esclaves aux chansons de prisonniers recueillies par John et Alan Lomax dans les années 30. Comme l'a décrit Nathalie Petrovski dans la Presse Plus d'hier, je vous en ai fait d'ailleurs la lecture, des personnes manifestent depuis quelques mois leur malaise par rapport à ce spectacle ou le critiquent sur les réseaux sociaux. Ils accusent notamment les créateurs d'appropriation culturelle. On aurait bien aimé faire autre chose de notre vie que de manifester, mais une fois de plus, il se passe encore des événements où la souffrance noire est utilisée comme divertissement, en plus sans inclure aucune personne noire. Une fois de plus, c'est problématique et nous sommes obligés d'être ici, a confié Pauline Lomami à la presse pendant la manifestation. C'est plus que de l'appropriation culturelle, a ajouté son amie Sophia Saran. C'est de revivre une violence. Oui, la musique est à tout le monde, mais cette musique-là est née en tournant des êtres humains en propriété. Il y a eu de la violence sexuelle, psychologique et physique. C'est un traumatisme qui est générationnel. Et là, on l'utilise et on le whitewash. C'est ça qui fait mal, dit Sophia Saran. De nombreuses personnes ont pris le micro pour s'exprimer ou pour chanter devant la petite foule regroupée dans la rue Sainte-Catherine. Le militant Vincent Mousseau, qui a pris la parole à plusieurs reprises, a affirmé à l'intérieur de ce théâtre en ce moment « Ils prennent nos souffrances, notre histoire et l'héritage de notre résilience pour un billet qui coûte entre 60 et 90 $. Honte à vous! » Des dizaines de policiers étaient présents. Ils étaient surtout positionnés près de l'entrée du théâtre pour s'assurer que les spectateurs puissent y pénétrer. Ces derniers devaient passer devant les manifestants qui les invectivaient, entre autres, en clamant le slogan « Black Pain, Not Your Game ». « Bienvenue au Théâtre du Nouveau Monde. J'espère que vous allez aimer votre pièce raciste », leur a lancé l'un des protestataires. Le Festival international de jazz de Montréal n'a pas voulu commenter l'affaire. Quant à Robert Lepage, la compagnie Ex Machina et Betty Bonifaci, une déclaration a été publiée sur la page Facebook de la compagnie théâtrale un peu avant le début de la manifestation. Oui, l'histoire de l'esclavage sous ses multiples formes appartient d'abord à ceux et celles qui l'ont subi et à tous ceux qui en ont hérité, peut-on y lire. Mais cette histoire a été écrite par les oppresseurs autant que par les opprimés, par des Blancs aussi bien que par des Noirs. Et il faut en témoigner, d'abord pour qu'elle soit connue, mais aussi pour éviter qu'elle ne se perpétue. Extrait de la déclaration publiée sur la page Facebook d'Ex Machina. Les artistes ajoutent « Avons-nous le droit de toucher à ces sujets? Le public en jugera après avoir assisté au spectacle. » Depuis 1998, Betty Bonifaci s'intéresse aux chants créés par les esclaves afro-américains. Elle a d'ailleurs enregistré 2 albums, Lomax et Lomax Deluxe, et elle a présenté en tournée le spectacle « Chants d'esclaves, chants d'espoir ». Robert Lepage a eu un coup de cœur pour son travail et il a décidé de raconter l'histoire de ses chants dans un spectacle théâtral dont la première médiatique a lieu ce soir. Il s'agit d'un des spectacles les plus populaires du festival. Jusqu'au 30 juin, toutes les représentations affichent complet. Des supplémentaires ont été ajoutés du 2 au 14 juillet.
Go out and bring me love. Well, the devil did. He told the high sheriff, says, I ain't gonna mess with Lazarus. Well, he's a dangerous man. Lord, Lord, he's a dangerous man. Oh, then the high sheriff, oh, yeah, he found Lazarus. Well, the high sheriff found Lazarus. He was hiding in the pillar of the mountain. Oh, well, with his head hung down, long, long, with his head hung down. Oh, then the high sheriff, oh, yeah, it was Lazarus. Mm-hmm. Well, the high sheriff, no Lazarus, there's a Lazarus that come to arrest you. There ain't you dead or alive, Lord, Lord, ain't you dead or alive. Oh, then Lazarus, it's all the high sheriff.
Extrait du film Oh Brother, Where Art Thou? On vient d'entendre James Carter and the Prisoner et la pièce Paul Lazarus.
Sujet libre, et je vous rappelle que pendant l'été, nous sommes en onde, le quotidien des quotidiens, du lundi au jeudi jusqu'à midi et le vendredi jusqu'à 11h30. Confession d'un père indigne, c'est le titre de la chronique de Richard Martineau. Je l'avoue, je suis un père indigne, horrible, épouvantable. Je devrais être mis au banc de la société et interné dans un hôpital psychiatrique. Mon crime, j'ai montré A Clockwork Orange de Stanley Kubrick à ma fille cadette alors qu'elle avait 13 ans. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, cette adaptation du roman culte d'Anthony Burgess raconte les aventures d'un voyou qui passe ses journées à se geler la bine, à voler des passants, à battre des sans-abri, à violer des femmes et à entrer par effraction dans des maisons luxueuses afin d'y brutaliser ses occupants. Arrêté, il est envoyé dans un institut où on l'oblige à regarder de force des films hyper violents. Dégoûté, transformé en petit mouton fragile par cette thérapie révolutionnaire qui le rend allergique à toute violence, cet ancien chef de gang est relâché dans le monde où il rencontre ses victimes qui profitent de son nouvel état pour le tabasser. Bref, c'est une fable moraliste, rock'n'roll, remplie de bruit et de fureur. Mais c'est aussi un chef-d'œuvre, l'un des 10 longs métrages que j'apporterai sur une île déserte, écrit Richard Martineau. Un film brillant, visionnaire, qui a transformé le 7e art et que j'ai vu une vingtaine de fois sans jamais m'en lasser. Depuis que ma fille est toute petite, je regarde toutes sortes de films avec elle. pas juste des niaiseries roses bonbons de Walt Disney, mais aussi des drames psychologiques, des classiques, des films d'auteurs hyper pointus. Je ne conseille pas ça à tous les enfants, mais je connais ma fille. Elle est curieuse, originale, avant-gardiste. Elle est capable d'en prendre. Alors, lorsqu'elle a eu 13 ans, j'ai décidé de lui montrer A Clock Orange, Orange Mécanique en français, accompagné de mes commentaires, et elle a capoté. À la fête des pères, ma fille, qui a maintenant 19 ans, m'a envoyé ce message. « Merci, papa, de m'avoir montré toutes ces choses, cinéma, musique, culture générale. À un si jeune âge, ça m'a inspirée. C'est l'un des plus beaux messages que j'ai reçus. » Aujourd'hui, ma fille cadette a une affiche géante de A Clockwork Orange au-dessus de son lit. Kubrick est son idole. Et elle travaille comme caméra woman pour certaines productions. Savez-vous ce dont je suis le plus fière dans ma relation avec elle? De lui avoir enseigné l'importance de la transgression. Le but de l'art n'est pas de réconforter les gens comme le croient les curés de la bien-pensance qui sévissent de plus en plus dans les médias. Ce n'est pas de véhiculer de bonnes idées ou de bons messages, c'est de choquer, de brasser la cage, de briser les tabous, d'explorer les zones obscures de la psyché humaine. Mes idoles artistiques, Sade, David Lynch, Vladimir Nabokov, Picasso, Pasolini, ne flattent pas les gens dans le sens du poil, au contraire. Je n'ai pas besoin de ça. Le monde est déjà rempli de curés qui nous font suer avec leurs sermons mièvres. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me projette hors de ma zone de confort. À bas la rectitude politique. Sur ce, je pars en vacances quelques jours. Surtout, ne soyez pas sage. Encore dans le Journal de Montréal, cette fois, c'est Mathieu Bock-Côté qui signe un article ou une chronique intitulée « Le vegan et la côte de bœuf ». Ah, la France! Sur Terre, il n'y a pas meilleur endroit où faire bombance. C'est le paradis de la bavette, des côtelettes d'agneau et de la tête de veau. On s'installe à table et, comme le veut la coutume, on en sort que très tard, heureux de s'être régalé de tant de bons mets. Dans ce pays béni des dieux où la table est un rituel précieux, on devine que le boucher n'est pas qu'un commerçant. C'est aussi le gardien de rituels essentiels et d'un art de vivre. Avec son cousin le fromager, il est d'usage de le visiter pour se faire plaisir. Il ne faut surtout pas oublier de passer chez le boulanger. Lui aussi, c'est un pilier de l'art de vivre. Tout cela pour dire que ce beau monde vient de se découvrir des ennemis. En fait, je parle surtout des bouchers qui viennent de demander une protection policière contre les activistes véganes. Les véganes? On ne parle pas ici de simples végétariens qui préfèrent les pâtes aux tomates aux pâtes aux saucisses. On parle d'une mouvance de plus en plus influente, souvent sectaire, qui s'oppose à toute utilisation de produits d'origine animale dans notre existence et plus particulièrement dans notre alimentation. Ils se mobilisent au nom de l'antispécisme, une doctrine qui refuse toute forme de hiérarchie entre les êtres vivants. Pour ces joyeux drilles qui mangent un bœuf participe directement à un carnage à grande échelle, à un massacre inadmissible. On s'en doute, ces militants véganes, surtout les radicaux, ne se contentent pas de vivre leur vie. Ils veulent libérer les animaux de la domination humaine et soumettre la société à leur idéologie. Et les plus fanatiques croient aux actions éclatantes pour nous conscientiser. Les plus fanatiques aspergent de faux sang les boucheries ou alors ils les vandalisent. Le carnivore est traité comme un truand et celui qui lui permet d'assouvir son vice comme un assassin. Pour reprendre la question que posait Sébastien Le Foll dans Le Point début juin, où s'arrêtera la criminalisation des viandeux? Je ne peux m'empêcher de voir dans cette mouvance un symptôme parmi d'autres de la décomposition des grandes idéologies qui donnaient du sens à nos vies. Les gens, et les jeunes gens encore moins, ne se contentent pas d'une existence aplatie, sans idéaux, sans poésie. Ils veulent servir le bien et combattre le mal. Plusieurs ont trouvé dans le véganisme une manière d'entrer en religion. Ils politisent leur alimentation. Qu'on se comprenne bien, la cause du bien-être animal est essentielle, écrit Mathieu Bock-Côté. Et si les véganes peuvent nous y sensibiliser, tant mieux. Mais la viande, comme le fromage, sont au cœur d'un art de vivre et d'une civilisation que nous n'abandonnerons pas simplement pour faire plaisir aux antispécistes. La prochaine fois que je dévorerai une côte de bœuf, ce soir sans doute, je penserai à mes amis véganes et au moment de me lécher les babines, je me désolerai qu'ils se privent d'un tel bonheur. Dès vendredi, la chaleur s'installera pour quelques jours sur le Québec. Le mercure grimpera en flèche et pourrait atteindre des températures ressenties de 45 degrés Celsius. Sur Métro, même Météo Média, on annonçait des 48 degrés avec Humidex. Donc, avec l'humidité qui va augmenter graduellement au fil des prochains jours, on va ressentir des températures assez chaudes. Merci pour le week-end. La journée la plus chaude sera lundi, a fait savoir Steve Boily, météorologue à Environnement Canada. M. Boily rappelle qu'avec des temps si chauds, les gens qui font de l'exercice physique ou qui déménagent doivent être vigilants. Il faut s'hydrater, faire des pauses, se climatiser si possible, a-t-il conclu. Bonjour les piscines, les lacs et beaucoup d'eau à boire également. Restez avec nous, la suite dans un petit moment avec la lecture d'articles issus de journaux canadiens.